C'est vrai, des cœurs d'enfants. Des cœurs d'enfants. C'est comme ça que on doit se présenter ce matin. C'est ça. Je dois utiliser ça parce que malheureusement, ils n'ont pas construit ces choses-là pour les plus grands. Alors, on change d'instrument ce matin. Alors, mes salutations à tout le monde et comme je l'ai fait la dernière fois, je veux également saluer ceux qui vont écouter ce message via Internet. Donc, on sait qu'ils sont nombreux les gens qui vont sur notre site et qui écoutent nos messages. Alors, mes salutations à toute la francophonie du Québec et également à celle du monde entier qui viennent nous écouter. Qui est notre prière ce matin, c'est que Dieu vous touche. Tous, d'une façon très particulière ce matin. Il y a quelque chose pour chacun de nous et c'est vraiment notre prière qu'il touche des cœurs. Alors, selon les Écritures, nous voyons que les anciens sont les sous-bergers souverains et du souverain et suprême berger. Nous avons vu la semaine dernière, nous avons étudié ensemble les fondements de l'autorité donnée aux anciens qui dirigent le peuple de Dieu et les principes de base qui gouvernent l'exercice de cette fonction. Ce matin maintenant, voyons de quelle façon les sous-bergers du Seigneur pourront s'acquitter de ses responsabilités et quelles sont justement ses responsabilités. Notre Seigneur Jésus-Christ a donné des instructions précises à ses disciples et aux prophètes à cet effet. Quoi de mieux que de plonger nos regards dans la parole pour y découvrir des instructions absolument formidables? Le monde est dans une constante tourmente. Alors que 10% de la planète mondiale s'enrichit, plus de 90% s'appauvrit. Et sombre. On cherche une solution au massacre et à la guerre en Syrie. L'Amérique ne sait plus quoi faire de ses armes à feu. Les Québécois, pendant ce temps-là, s'entredéchirent sur leur identité culturelle. Les familles, les couples sont en crise. De plus en plus d'aînés sont abandonnés dans nos centres d'accueil. Des gens meurent dans la solitude. On veut décider du moment de notre propre mort. C'est pas encourageant comme portrait. Mais on a trouvé un endroit qui semble nous mettre à l'abri des tourments. Vous avez trouvé peut-être une église où des personnes sont réunies dans l'amour, dans l'unité, la joie. Ils chantent, ils se donnent des accolades, ils lunchent ensemble. Hey, c'est comme le petit paradis sur terre. C'est, dans un sens, c'est vrai. L'Église sur terre, c'est un peu pour moi l'ombre des choses à venir. C'est comme un prélude au ciel. C'est la salle d'attente avant d'entrer. Hein? On prend l'apéro avant d'entrer au grand festin. Ce grand festin qui sera la noce de l'agneau, là où l'épouse, l'Église, le corps de Christ, les pierres vivantes que nous sommes, au son de la trompette, seront enlevées dans les airs vers le ciel à la rencontre de l'époux, le Seigneur Jésus-Christ, qui reviendra de la même façon qu'il a quitté cette terre, tel qu'il est écrit dans les livres des Actes, chapitre 1, verset 11. Oui, vous avez trouvé un havre de paix, un oasis, dans notre petit désert parfois de solitude, de souffrance, de maladie, d'inquiétude, d'angoisse, pendant quelques heures le dimanche, sur cet oasis. Le lundi matin, on a quitté l'oasis. Lorsqu'on se lève pour reprendre notre routine, notre petit quotidien, notre marche dans ce désert, jusqu'au prochain dimanche. Voici une histoire vraie. l'histoire de Cathy. Les noms ont été changés. Ça s'est passé dans les années 80 jusque dans les années 2000. Cathy est devenue membre de son assemblée en 1986 et sur la base de sa profession de foi, elle fut membre de cette assemblée jusqu'à sa mort en juillet 2005. Son décès a eu l'effet d'une douche froide sur le ministère de pastoral de berger de cette assemblée. À sa conversion en 86, Cathy sortait d'une vie qui était empreinte de rébellion et d'un style de vie libertin. Elle a fait profession de foi, elle a participé activement aux activités de son assemblée. Mais quelques années passèrent et Cathy retourna tranquillement, subtilement, à ses vieilles habitudes de vie. Comme la fleur qui se fane, tranquillement, lentement. Elle a tranquillement délaissé pour finalement ne plus se présenter à l'assemblée. Et personne ne savait où elle était. Pire encore, personne ne s'intéressait à le savoir. Son nom est demeuré sur la liste des membres. Seul son nom inscrit sur la liste faisait partie de l'assemblée, dans un tiroir quelque part. Juste avant sa mort, en 2005, le Seigneur l'a reconduit sur le chemin de l'assemblée. La visite pastorale, l'intervention, a été trop brève pour vraiment statuer, vraiment cerner sa position devant Dieu. Malgré cette incertitude, une funéraille a été célébrée en sa mémoire. Cathy passera devant le trône de Christ pour rendre compte des œuvres de sa vie. Mais devant ce même trône, les sous-bergers du troupeau, les anciens, les pasteurs, vont rendre compte pour cette seule brebis perdue. Combien de Cathy y a-t-il dans nos églises? Y en a-t-il en ce moment même une Cathy dans la Mauricie que nous ignorons par négligence? Jésus est ému de compassion parce qu'il regarde Cathy, une brebis, sans berger, notre Seigneur qui est ému de compassion. Frères et sœurs, il ne faut plus. Ça peut être facile à dire, mais il faut faire un effort pour qu'il y en ait moins. Mais que faire devant cette assemblée? Comment cette assemblée peut éviter de tels drames sur le plan spirituel et des conséquences qui ont une portée éternelle? Si vous avez déjà travaillé pour une compagnie ou une organisation bien structurée, on vous a sûrement remis un document. Il y en a ici qui connaissent ça. Ça s'intitule « Description de tâches de l'employé »,« Liste des responsabilités », etc. Le document porte plusieurs noms. Et c'est un document détaillé des responsabilités primaires et secondaires de votre emploi du temps pour rencontrer les attentes de votre employeur. Voici donc une description de tâches du berger, vue en quatre volets. Connaître, nourrir, protéger, mener. Et voilà comment certains passages des Écritures peuvent soutenir une telle approche. Dans Jean, chapitre 10, verset 14, le Seigneur qui dit « Je connais mes brebis et elles me connaissent. Je connais mes brebis et elles me connaissent. » Connaître. On ne peut pas gérer ce que l'on ne peut pas compter. C'est un des principes de base en gestion, en finance même. Hein? Si je ne peux pas le compter, impossible pour moi de le gérer. Le berger, le vrai berger, il sait combien de brebis il a. Sinon, comment pourrait-il en abandonner 99 à la recherche d'une seule? Il doit avoir un compte exact pour savoir s'il en manque une. pas question de se contenter du « Est-ce que tout le monde est là? » Les absents ne lèveront jamais la main. Le bon berger va compter régulièrement. Il va être à l'affût d'une fugue. Il va être à l'affût de l'errance. Concrètement, par exemple, une liste de membres, comme je le mentionnais dans l'histoire de Cathy, une liste de membres, c'est une bonne chose. Mais à quoi vraiment sert-elle si c'est seulement pour envoyer des lettres de convocation pour les assemblées générales? C'est un outil indispensable. C'est le jalon qui sert à sonner l'alarme rapidement si un membre manque à l'appel. Manquer à l'appel. Manquer à l'appel. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Pour le berger, le jour du Seigneur pourrait être le jour de l'appel dans les rangs. Et oui, c'est idéal pour faire le compte. On pourrait soustraire ceux et celles qui ne peuvent pas se déplacer. On les connaît. Mais est-ce que je balance avec ma liste de membres? Si, par exemple, dans mon groupe, je vois Robert. Robert et Lucia sont absents pendant quelques dimanches. On n'est pas au courant. Sont-ils à l'extérieur, en vacances? Peut-être qu'ils sont malades? Peut-être qu'ils sont en panne quelque part, en panne spirituelle, peut-être en panne de Stéphane. Lui, là, on est tanné, on n'est plus capable de s'en dire. Pour que je sache, si je ne m'informe pas, c'est parce que je n'ai pas le temps, parce que ce n'est pas de mes affaires. Pire encore, parce que je ne m'en préoccupe pas. Si je ne sais pas pourquoi il y a un problème, je ne peux pas exercer les fonction de ma description de tâche. Non seulement je ne peux pas faire ma job, je ne fais pas ma job, mais je ne peux pas la faire. Robert me répond, « Ah, je ne file pas, les problèmes de digestion, fatigué, on fait une veille de prière hier, on a jeûné, là matin j'ai mal partout. Robert, repose-toi, peut-être modère les soirées de prière avant le dimanche matin. » Si ça ne file pas, va voir ton médecin. Je vais parler à Lucia, je vais lui dire qu'elle prenne soin de toi. Il faut que je le sache. Je vais prendre une minute avec lui pour prier pour son problème. Ah, Robert me répond, ça ne file pas de ce temps-là. Physiquement, non. C'est comme j'ai plus le goût. Je ne lis plus. Oh! Drapeau rouge, une autre sorte de problème. Souvenons-nous, hein, l'histoire de Cathy, la fleur se fane graduellement, lentement. Le berger est là pour intervenir avant que l'ennemi, le diable, puisse davantage dévorer notre frère ou notre sœur. Comme le berger fait un examen minutieux de chacune de ses brebis, que le membre ne se sente pas épié ni contrôlé, mais qu'il y voit un sincère désir de mieux connaître, pour mieux nourrir, pour mieux protéger et mieux mener. Je ne veux pas offrir un dessert à un diabétique. Je ne veux pas prescrire du Tylenol à quelqu'un qui fait une indigestion. Partagez à votre berger les luttes de votre cœur. Si votre berger les connaît, il sera dans la mesure de mieux prier pour vous, de mieux vous soutenir. Le berger vous connaît dans la mesure où vous allez ouvrir les rideaux devant la fenêtre de votre cœur. On ne peut pas savoir ce qui se passe dans la maison si on regarde par la fenêtre et les rideaux sont fermés. Nourrir, je les ferai paître dans un bon pâturage et leur demeure sera sur les montagnes élevées d'Israël. Et elles reposeront dans une agréable asile, et elles auront de grands pâturages sur les montagnes d'Israël. C'est moi qui ferai paître mes brebis. C'est moi qui les ferai reposer, dit le Seigneur l'Éternel. Ézéchiel 34, 14 à 15. Ah, oh, le chapitre 34 d'Ézéchiel, ça peut faire trembler des genoux pour quiconque s'investit dans un ministère de responsabilité, de surveillance. Alors que le peuple d'Israël était en déroute avec des chefs qui ne s'occupaient plus de ses brebis, le Seigneur a dit, « Je vais le faire, moi. Vous allez voir, je vais m'en occuper. » Et on connaît la suite. Il s'en est occupé de façon parfaite. Nos corps ont besoin de nourriture, mais pas la même que je recevais quand j'étais enfant. Le corps a besoin d'aliments plus riches en acides gras, complexes, en glucides, en vitamines, en protéines, en minéraux, etc. Ma mère disait, on ne fait pas un corps d'athlète olympique avec du pablum. J'aimais ça le pablum, moi. J'ai pleuré. J'ai pleuré quand ma mère elle m'a converti au griot. Les motons et la senteur, c'était pas pareil. Elle me donnait aussi les petites capsules d'huile de foie de morue. Là. C'était comme les petits ballons de football. Il y en a qui s'en souviennent de ça. Hey, ça, là, on les croque juste une fois. On les croque. Après ça, on les avale, même si elles sont un peu grosses. J'entendais dire par un pasteur américain lors d'une conférence sur le travail des responsables d'Église que le manque de connaissance du peuple de Dieu, des Écritures, est alarmant. Alarmant! Alors que nous sommes à l'ère de l'information, des technologies, les gens sont super informés. Super informés. Mais ils connaissent de moins en moins les Écritures. On se gave d'informations plus souvent qu'autrement, ce ne sera plus bonne demain. Pour garder une nouvelle à soir, demain les nouvelles sont plus bonnes. On connaît mieux la programmation de TVA que le contenu du livre des Actes des Apôtres. On cherche le livre des Hébreux dans l'Ancien Testament. On connaît par cœur plus de répliques de Star Wars que des versets de l'Évangile de Jean. On connaît par cœur plein de choses. J'ai même entendu dire une fois, il est connu comme Barnabas dans Passion. Trouvez l'erreur. En tant que berger, nous avons la responsabilité de renverser la vapeur. Équiper le peuple pour prendre goût de lire, pour faciliter la lecture de la parole. Enlever des obstacles pour les adultes et pour les enfants. Peut-être on devrait revenir à avoir des genres de quiz, des quiz bibliques. Je me souviens, il y avait une émission en télévision là, de son nom, là, Serge Goujon, je ne suis pas trop sûr. C'était une émission, il amenait un expert, là, puis là, il posait toutes sortes de questions là, sur c'est tous pour un. Ou un pour tous, en tout cas. Et puis là je me souviens de voir cet homme qui savait absolument tout sur Tintin. Tous les albums, des affaires, des histoires qui ne sont même pas dans les livres. Il savait ça. Je me disais, hey, si je pouvais-tu connaître ma Bible autant que ce gars-là connaît Tintin? Extraordinaire. À chaque jour, il faut nourrir. Se nourrir, nourrir notre foi, ce don que Dieu si précieux nous a fait. Comme une petite plante, hein? Les plantes, les fleurs, les arbres, Dieu les fait croître, mais il ne pleut pas tout le temps. Il faut les arroser. Il faut le faire chaque jour, si ça était possible. Arroser la semence, cette semence que Dieu a déposée en nous. Et on entend parler d'une pénurie mondiale d'eau potable d'ici 25 à 50 ans. Si cela nous effraie, il y a un phénomène qui devrait nous effrayer davantage. Il y a une source d'eau qui un jour on n'aura plus le droit de lire. Profitez-en pendant qu'on a le droit de la lire. On commence avec des symboles, puis à un moment donné, ça va être les livres. Prenons cela à cœur. Lançons-nous des défis. Peut-être un défi. Je ne sais pas. Un verset par mois, hein? Ça fait 12 versets par cœur par année. Demandez à quelqu'un de vous en imprimer un beau poster, le mettre sur le frigidaire. C'est bon pour toute la famille. Assurez-vous d'être présent. Assurez-vous d'être présent pour la prédication du dimanche matin. Ah! Je ne peux pas, vous savez, t'occuper. Peut-être que vous pourrez aller l'écouter sur Internet. Ah, je n'ai pas le temps de prendre 30-40 minutes dans la semaine. C'est vrai qu'on est tous occupés. On lutte avec ça. Aujourd'hui, là, c'est extraordinaire à quel point qu'on est tiraillé d'un bord comme l'autre. Pas le temps de lire. Pas le temps d'aller suivre des cours en ligne. Pas le temps d'aller à des conférences organisées sur différents sujets, la famille, sur les attributs de Dieu et autres. Pas le temps, pas le temps. Est-ce là le réel problème? Pas le temps. On a trop d'autres choses à faire. Est-ce que le Seigneur nous a choisis parce qu'on avait autre chose à faire? Il faut se poser des questions, frères et sœurs, il faut se poser des questions. Protéger. Connaître. Nourrir. Protéger. Prenez donc garde à vous-même, à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église du Seigneur, qu'il s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels et n'épargneront pas le troupeau. Acte 20, versets 28-29. On connaît bien ça. C'est dangereux aujourd'hui. On verrouille nos portes. On a des systèmes d'alarme pour nos maisons. Le berger veille à ce qu'aucun loup n'entre dans la bergerie. Et évidemment, les brebis vont sonner l'alarme. Le berger doit être à l'affût des cris d'alarme. Il doit veiller sur le comportement de ses brebis. Ils se mordent, hein? Les brebis se bousculent, sautent par-dessus. Tu sais, ils sautent mouton, là, c'est ça. Ils sautent par-dessus les autres, ils n'écrasent, ils bousculent. Le berger ne peut pas permettre ça. Le mauvais berger va laisser l'intimidation, la bousculade, les murmures se propager, qui vont nuire au bien-être du troupeau. Il y a aussi des gestes qu'on pose au regard du monde. Des gestes qui ont des conséquences parfois terribles. Des conséquences sur notre bien-être, sur celui de nos proches, de nos enfants, notre famille. Et notre santé spirituelle n'en souffre. On éteint le Saint-Esprit. La prospérité spirituelle régresse. C'est comme la cote, hein? S'il y avait une cote en bourse là, de notre prospérité, là, de notre niveau spirituel, là, des choses qui ont des conséquences, qui nuisent. Pire encore, ça nuit au témoignage de Dieu. La gloire de l'Évangile est ternie. Lorsque le peuple d'Israël faisait des choses qui déplurent à l'Éternel, il s'irrita, l'Éternel s'irrita, jusqu'à sa colère qui s'enflamma. Oui, je peux faire ceci. Oui, je peux faire cela, je peux aller là, je peux aller ici. Tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. L'apôtre Paul écrit. Je peux y aller physiquement et je peux y aller virtuellement. C'est facile aujourd'hui, virtuellement. Je peux faire ça dans l'intimité de ma maison. Mais dans l'intimité de ma maison, je parle au monde entier. Je peux tout leur dire. Je peux tout leur faire connaître qu'est-ce qu'il y a. Une vraie vitrine. Ça, c'est une des bonnes histoires que j'aime. C'est une belle illustration qui m'a souvent parlé. Vous connaissez Pinocchio? Pinocchio qui allait à l'école, il avait le chemin à suivre et il fait des rencontres sur son chemin. Il y a toutes sortes de possibilités. Il rencontre un de ces jeunes hommes. Crapule, qui s'appelait. Je ne sais pas si vous vous souvenez de son nom. Hein, Crapule, il expliquait là, que c'était plate ce que Pinocchio il fait. Il dit, moi, regarde, il y a toutes sortes d'affaires plus cool que ça. Et puis, viens voir ça. OK, c'est correct. Je peux être avec des amis. Mais jusqu'à quel point je vais les suivre? Jusqu'à quel point je vais tenir leur discours? Alors, Pinocchio va suivre. Il va s'en aller ce qu'il appelait l'île du plaisir. Hey, on connaît ça, on était là avec le kiosque des fermiers chrétiens. On peut y aller, c'est le fun. On peut aller s'amuser, on peut aller bien s'amuser. Mais est-ce qu'on va aller, comme Pinocchio est allé à l'île du plaisir, il a même rentré dans cette espèce de maison où tout était permis, on peut tout casser. Tu sais, c'était le fun, il y avait toutes sortes de plaisirs. Mais est-ce qu'on va aller jusqu'à fumer le cigare aussi? Parce que vous savez, les cigares étaient un piège. Hein? Fumer le cigare, bien, il se transforme en âne. Est-ce qu'on va se transformer en âne, nous aussi? Est-ce qu'on va faire ça? Jusqu'où on va aller? Une fois qu'on est entré, hein, faut être prudent. Quand on est sur ces plateformes virtuelles de réseaux sociaux, etc. Mais non! Non! Faisons une différence. Brillons. Que le monde voit clairement qu'il y a quelque chose de spécial, de bizarre, même de capoté. Parce que l'amour que Dieu a eu pour nous, c'est un amour capoté. C'est vrai que c'est capoté quand on y pense. Et comme il est écrit, hein, le discours de la croix est une folie pour ceux qui se perdent. C'est capoté, c'est fou ça. Tenons un discours, un comportement à la hauteur de la parole de Dieu. Lorsque les gens disent « Nos gouvernements sont pourris », répondons que Dieu, c'est Dieu qui les a mis en place. Demandons à Dieu de les éclairer. Prions pour eux. Lorsque les gens partagent une blague ou des photos à caractère sexuel, disons que Dieu, ça ne lui plaît pas, que ça nous rend impurs, que c'est sale. Lorsqu'on nous invite à s'engourdir dans le plaisir, répondons que nous avons Dieu et sa parole qui font nos délices. Allons-y courageusement. Facile à dire, je le sais. Pas facile à faire. Mais faisons honneur à notre maître. Faisons honneur. Lui qui est mort, il est mort pour des choses qu'on continuerait à faire, qu'on encouragerait même, qu'on applaudirait, assis à côté de nous, dire « Jésus, regarde, t'es mort pour ça, mais gars, viens, on va faire ça ensemble. T'es mort pour ça, mais on va le refaire. » Non! Répondons au monde que Dieu n'approuve pas leurs pensées. Puis je vous garantis deux choses. Notre cote de prospérité spirituelle va monter. Mais l'autre chose, je vous garantis, c'est que la persécution va s'accentuer. Parfois, on le dit, hein? Ah, il me semble, là, s'il y avait un petit peu plus de persécution, là, à nous autres sites d'église au Québec, là, hein, il me semble là, que ça nous réveillerait un peu, là. J'entends des témoignages de chrétiens au Québec qui tiennent ferme ouvertement et avec constance pour Dieu leur sauveur. Il y en a ici ce matin. Il y en a ici ce matin, j'en connais. Il y en a parmi nous. Pas nécessairement besoin d'aller en Chine. Je ne veux pas comparer avec le niveau de persécution, mais je parle de trouver des gens qui tiennent ferme pour le Seigneur devant la pensée du monde. On veut imiter Jésus-Christ. On veut l'imiter. C'est à notre portée. Pas facile, mais c'est à notre portée. C'est beaucoup plus proche qu'on le pense. Du bout de nos lèvres, pasteur, c'est plus de même, là, et du bout de nos pouces, c'est à notre portée. Il y a toutes sortes de moyens. Et lorsqu'on nous maltraitera, oui, ça fait mal. Répondons qu'on les aime quand même, mais continuons de le dire, que Dieu n'approuve pas leurs pensées. Dieu n'approuve pas leurs images. Si nous persévérons dans cela, on verra le phénomène de la saucisse high grade. Hein? Plus je défends ma foi, plus je ressemble à Christ. Plus je ressemble à Christ, plus ma foi sera grande. Ça tourne. On continue. Menez. Il fit partir son peuple comme des brebis. Il les conduisit comme un troupeau dans le désert. Psaume 78, 52. Le berger a la responsabilité de diriger le troupeau au bon endroit, au bon moment. Selon la saison, la météo, il mène son troupeau de façon intelligente et il choisit le meilleur chemin pour ses déplacements. Il doit être conscient de son environnement, de la géographie du pays, des autres troupeaux, des lieux dangereux. Le berger également ne travaille pas seul. Il est impossible pour le berger d'être partout en même temps. Il a besoin d'aide. Il est soutenu par des frères et sœurs. Des frères et sœurs qui font partie de son équipe. C'est comme le capitaine d'un navire qui est entouré. Je ne sais pas si Jérémie, es-tu ici ce matin? J'ai vu Jérémie. Hey, Jérémie, c'est ça, hein? Le capitaine, il y a ses officiers et il y a ses membres d'équipage. Si vous avez été en croisière, vous les avez remarqués, ils portent l'uniforme. Jérémie connaît ça. Lui, il n'est pas sur une croisière, il est plus sur un navire de guerre. C'est sur l'eau, mais bateau différent. Oui, mais vous allez dire, les bergers sont accompagnés du Seigneur. Évidemment, mais n'oublions pas que le Seigneur accompagne également chacun des membres qu'il met sous sa garde. Les passagers d'un navire ont aussi des consignes claires en situation d'urgence, par exemple. Les membres d'une assemblée ont également des responsabilités, des consignes. Comme dans une famille. Dans une famille, chacun fait sa part. On a tous des corvées à faire. Chez nous, on n'a pas d'animaux. Ni chats, ni chiens. Mais c'est curieux, des fois, là, quand je commence à apercevoir des petits chats qui se promènent, des minous, là, je le dis à ma femme. Je dis, il y a des minous qui se promènent dans la maison. Alors, ma femme, elle sait quoi faire. Hein? Elle sort la balayeuse, puis là, elle dit, amuse-toi, mon amour. On a tous des responsabilités différentes. Mais aider les bergers à être des membres différents du visiteur. Comme membre, on n'est plus un spectateur. On n'est plus un consommateur du dimanche. Le membre est né de nouveau. Il est habité du Saint-Esprit de Dieu. Et dans son désir profond de sanctification, il aspire à imiter Christ et à imiter ses conducteurs. Voilà d'où l'importance que les conducteurs doivent être des modèles. Un responsable, un pasteur raconte que un frère, après le service du dimanche, vient le voir et lui demande, « Écoute, je pense que j'ai des aptitudes, c'est difficile encore à déterminer, peut-être des dons, mais là, je regardais à l'église ici, vous avez des comités, des ministères, mais là, je ne sais pas, moi, aller m'impliquer dans un, dans l'autre, il me semble qu'il n'y a rien pour moi, là, dans les différents comités, moi, je ne sais pas, je ne vois pas ma place. » Et le pasteur regardait autour de lui et voit un frère qui était assis seul. Et il dit, regarde le frère là-bas. Il dit, peut-être, va t'asseoir à côté. Va jaser avec. Il est seul assez souvent. Peut-être va lui rendre visite dans la semaine. Va lire la parole avec lui. Va prier avec lui. Il dit, ça, c'est à ta portée. Pas besoin d'un comité pour ça. Des disciples. Qui forme des disciples. Et évidemment, c'est sûr qu'il y a bien des choses à considérer et il faut vraiment être patient. Et j'aimerais peut-être qu'on se concentre aussi, tous, lorsqu'on parle de l'ensemble, qu'on se concentre sur ceci. Et entendez bien, sur la question du dimanche matin. Cela vaut pour les leaders également. Lorsque l'on franchit la porte, ici le dimanche matin, que nos pensées soient concentrées sur l'adoration, de celui qui fait tant pour nous à chaque jour de la semaine. L'adoration, une saine communion fraternelle et l'accueil des visiteurs. Moi, j'appellerais ça les 3 A du dimanche matin. L'adoration, l'accolade, l'accueil. On a 6 jours et demi pour faire de la business. Tous les responsables, on a un téléphone. On a 6 jours et demi pour s'appeler, pour discuter de dossiers, de projets, tenir des réunions. Ah, mais je le vois, lui, dimanche matin, là, je voyais en parler. Pensez aux 3 A. On est venu pour adorer. L'accolade et l'accueil. 3 dimensions. Verticale. Nos frères et sœurs, et aller vers le visiteur. Maintenant que le berger a pris connaissance de sa description de tâche, il doit aussi bien s'organiser afin de se mettre au boulot. Ça peut être décourageant, ça. Moi, le chapitre 18 du livre d'Exode, il est comme encadré dans ma Bible. Jéthro, le beau-père de Moïse, qui vient le visiter et qui observe Moïse, qui est seul, seul pour juger toutes les affaires du peuple. Il lui dit, « Tu vas t'épuiser et puis tu vas épuiser le peuple entier. » Il lui conseille de subdiviser le peuple en groupes de 1000, de 100, de 50 et de 10. Vous savez, la société moderne, laissez-vous pas dire ça, hein? La société moderne n'a pas inventé la hiérarchie organisationnelle. Les bergers, 1500 ans avant Jésus-Christ, les bergers connaissaient ça. On en a la preuve. Moïse écoute le conseil de son beau-frère, le plus grand prophète de Dieu. Hein? Il écoute le conseil de son beau-père et mena Israël en les divisant, en établissant des chefs de 1000, des sous-chefs de 100, de 50 et de 10. Notre modèle à nous, au Cap, notre modèle initial, évidemment, sera simplifié, compte tenu des ressources qu'on a de disponibles, c'est-à-dire que fort probablement, on regardera à 4 groupes. 4 groupes, 30, 35, 40 personnes. Personnes, couples, familles confondues. Un ancien avec 2 ou 3 diacres. Je dis diacres, collaborateurs. Vous allez, dans les prochaines semaines, recevoir une lettre vous indiquant votre groupe d'appartenance et une rencontre pour tout le groupe pour vous informer plus en détail du mode de fonctionnement. Les petites consignes d'usage, comme sur le navire, hein, l'inspection des cabines, les gilets de flottaison, les canots de sauvetage, il faut savoir tout ça. On est tous dans le bateau. On est tous dans un grand bateau. Vous savez, l'Église, hein, c'est comme l'arche. L'arche de Noé était une figure de l'Église sur terre. Hein, quand la grande porte de l'arche s'est fermée, l'eau a soulevé l'arche. Un jour, la porte étroite de l'Église va se fermer et on sera enlevé, soulevé. C'est beau, moi, je suis un petit peu... c'est des façons romantiques peut-être de le voir, mais j'aime ça. Attention, les groupes ne sont pas un substitut des cellules de prière. Mais qu'est-ce que ça va faire? Il y en a qui vont me demander, « Steph, les groupes, ça va faire quoi, ça? » Les groupes, c'est une structure. C'est juste une structure invisible sur laquelle les bergers et leurs coéquipiers vont faire leur travail de berger. Mieux vous connaître, mieux nourrir, pour mieux protéger, pour mieux mener. Et on ne réinvente pas la roue, mes amis. On ne réinvente pas la roue. Le bon vieux téléphone, les visites, les rencontres. Mais la différence, c'est que tout ça va être opéré de façon systématique et intentionnelle. C'est ça qui est important. Ce n'est pas une option. On fait notre job. Peut-être que vous faites partie de ce 10% de la population qui va bien. Encore mieux, peut-être que vous fréquentez une église, une assemblée qui prospère. Vous connaissez votre pasteur, votre ancien, et lui vous connaît. Ou du moins, il vous reconnaît le dimanche matin quand vous arrivez. Vous êtes dans un oasis le dimanche matin, et le lundi matin, votre cœur semble traîner dans le désert. N'attendez pas une solution miracle, une délivrance de vos problèmes terrestres. Vous pouvez faire partie du meilleur endroit au monde, posséder les derniers gadgets super cool. En passant, si vous avez un iPhone 5, il est déjà passé date. Mais connaissez-vous la croissance spirituelle? Mais si on vous promet la prospérité financière au lieu de la prospérité spirituelle, si on vous promet la prospérité dans la santé, dans le bonheur, sauvez-vous, tombez pas dans le panneau. Le peuple juif qui attendait aussi une délivrance terrestre, une délivrance du joug romain, de la famine, de l'injustice sociale, de la maladie, hey, ces gens-là, là, ils ont été déçus. Moi, je pense que dans le top 10 ou le top 100 de la planète, ça a été les plus déçus au monde, avec le Messie. Le Messie avec eux, crucifié. Pas de délivrance. Mais Christ est ressuscité. Christ a vaincu la mort. Il a vaincu la mort pour nous. C'est une mort spirituelle, une autoroute qui mène droit en enfer. Christ est ressuscité. Voilà ce que Jésus-Christ a accompli. Rien à voir avec les problèmes de ce monde. Rien à voir non plus avec les bonheurs de ce monde. Notre pire problème, la mort spirituelle. On vient au monde avec. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Entendez-vous ce matin? Entendez-vous cette main qui cogne à la porte de votre cœur? Et voici, je me tiens à la porte et je frappe. Et que celui qui entend ma voix ouvre et j'entrerai. Apocalypse 3, 19. Quelle belle promesse! Il ouvre, j'entrerai. Ce matin, vous êtes ici. Le bon berger vous appelle. Peut-être il vous appelle à vous remettre sur pied et à le suivre. Mais peut-être il vous appelle à naître de nouveau. Jésus qui répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Oui, tu dois naître de nouveau. C'est le Seigneur Dieu qui te fera naître de nouveau. Dieu ne s'impose pas. Dieu ne s'impose pas. Il attend ton signal. Il écoute et il attend patiemment la voix de ton cœur. Permets-moi ce matin de t'accompagner dans ta réponse. Je vais prier et peut-être tu n'as qu'à répéter ces paroles dans ton cœur. Courbons nos têtes. Et prions. Seigneur, ici-bas, Seigneur, il n'y a aucune solution durable, seulement la déception. Il m'est impossible, Seigneur, de voir ton royaume par mes propres forces. Il m'abandonne. Je m'abandonne à toi, Seigneur. Je me mets à genoux, au pied de la croix, à cette croix où tu as pris toutes mes transgressions, tous mes péchés, passés, présents et à venir. Je veux ce matin naître de nouveau, Seigneur. Entends ma voix. Je veux te connaître et te suivre, t'appartenir pour l'éternité. Amen. Alors, si vous avez fait cette prière sincèrement dans votre cœur ce matin, s'il vous plaît, partagez-la à quelqu'un. Partagez-la à quelqu'un avant de quitter. Et on va faire un chant. J'ai demandé à Gabriel de nous guider dans un chant avant de se séparer pour cette journée. Et j'aimerais qu'on réfléchisse sérieusement aux paroles de ce chant, que Christ est ressuscité, Christ est le Seigneur, Seigneur des Seigneurs, et que ce soit vrai, ce soit une vérité pour chacun de nous. Merci Gabriel.
Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Ressuscité des morts. Il est ressuscité des morts. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est ressuscité des morts. Jésus est roi, Seigneur. Jésus est roi, Seigneur de tout. Jésus est roi, Seigneur. Jésus est roi, Seigneur. Jésus est roi, Seigneur de tout.
Encore une fois,
chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia. Chante Alléluia. Chante Alléluia au Seigneur.
Merci Gabriel.